Grand Angle sur Radio Orient.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Orient, avec vous François-Xavier de Calonne, le Grand Angle Hebdo, décryptage de l'actualité de ces 7 derniers jours, le sommaire. Un Premier ministre en sursis. François Bayrou va engager la responsabilité de son gouvernement à l'Assemblée nationale autour de la question de la maîtrise des finances. Verdict le 8 septembre prochain, après le vote des députés. C'est loin, très loin d'être gagné pour le chef du gouvernement. Le PS, comme l'ensemble de la gauche, votera contre. Le sénateur Rachid Temal nous dira pourquoi. LR donnera son feu vert à la poursuite de l'action de François Bayrou. Le député Les Républicains Philippe Gosselin craint une crise politique et une grave crise sociale. Vous les entendrez. Face à la tragédie dans la bande de Gaza, l'appel du pape Léon XIV, le souverain pontife appelle à un cessez-le-feu à Gaza et demande à Israël de respecter le droit humanitaire international. Dans votre émission, une figure de l'Église catholique en France, le père Christian Delorme. Le dossier nucléaire iranien, l'Europe met ses menaces à exécution. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne annoncent avoir entamé à l'ONU la procédure de rétablissement des sanctions internationales contre Téhéran. Nous y reviendrons avec un fin connaisseur de l'Iran, le chercheur à l'IRIS, Thierry Coville. La rentrée scolaire ce lundi, encore cette année, des milliers d'enfants en situation de handicap intellectuel et cognitif n'ont pas de solution adaptée. Vous entendrez le cri d'alarme de la vice-présidente de l'UNAPI, Sonia Aeinu. La France dans l'incertitude après l'annonce choc de François Bayrou, le Premier ministre qui a décidé d'engager la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale. Le chef du gouvernement va tenter d'arracher la confiance de l'Assemblée avec la quasi-certitude d'un vote négatif. Nous écouterons le député Les Républicains de la Manche, Philippe Gosselin, qui votera la confiance. Mais à présent, le sénateur socialiste président du groupe PS au Sénat, Rachid Temal, pour qui François Bayrou prépare sa présidentielle sur le dos des Français.
Monsieur Bayrou, maintenant c'est lui ou le chaos. Mais excusez-moi, le chaos c'est lui qui l'a causé avec son budget et avec sa déclaration. Donc monsieur Bayrou est disqualifié de parler de chaos. Comme les gens d'ailleurs de son équipe qui parlent ça toute la journée depuis hier. Ça y est, M. Bayrou a décidé de partir. Donc nous, on ne va pas le retenir. Il veut partir. Qu'il parte. Il faut maintenant un travail sérieux. Le 9 septembre, nous avons le temps de faire un budget. Les socialistes, par exemple, nous allons faire cette semaine des propositions concrètes, précises, sur le budget. Nous allons nous avancer de notre côté. Donc à partir de là, ce que je veux dire, c'est que chacun doit faire pareil. Et je pense qu'un ou une première ministre pourra effectivement sur la voie d'un compromis. Donc ce sera, chacun devra faire des efforts, je le redis encore une fois. Mais pensez toujours à l'intérêt des Français. Il nous faut un budget qui fasse avancer les services publics, qui permette à la croissance de revenir, qui permette à la sécurité d'État, etc., etc. Je pourrais comme ça développer les différents sujets. Bon, cela est possible. Je vous le dis, cela est possible et cela est nécessaire. Encore faut-il que chacun prenne bien conscience qu'il n'a pas de majorité seule à l'Assemblée. Donc, ça s'appelle des compromis. Il faut entendre ce que dit la gauche, il faut entendre ce que dit le socle commun. Et je crois que comme ça, nous pouvons y arriver.
Et on l'entend, Rachid Temal, pour vous, François Bayrou a ainsi choisi sa sortie.
Il essaye d'être l'Antoine Pinet du XXIe siècle. Monsieur Bayrou veut quoi dorénavant? Il veut avoir toute sa vie politique en disant, vous savez, moi j'ai essayé, j'ai souhaité, les partis m'ont bloqué. Que Monsieur Bayrou prépare la prochaine présidentielle, c'est son droit. Mais pas sur le dos du pays des Français.
Entretien à présent avec le député Les Républicains de la Manche, Philippe Gosselin, qui va voter la confiance du gouvernement. Si le gouvernement saute, il craint une grave crise politique et sociale. Il évoque aussi la journée de blocage du 10 septembre en France, deux jours après le vote de confiance. Philippe Gosselin.
Oui, il y a des risques d'un climat social très dégradé et de manifestations importantes le 10. Faut pas le sous-estimer. Peut-être aussi, je veux pas être oiseau de mauvais augure et faire trop de plans B ou C, mais peut-être aussi avec de la violence. Et si il n'y a plus de pilote dans l'avion, s'il n'y a plus de gouvernement, ça facilite pas les choses. Et d'ailleurs, on voit bien que l'absence de gouvernement peut être un des éléments qui favorise la mobilisation, et une mobilisation qui serait moins canalisée si on ne peut pas apporter de réponse politique. Moi, je n'évacue pas tout ce qui est dit du 10 septembre. Il y en a un certain nombre de nos concitoyens qui souffrent aujourd'hui, qui ont des problèmes budgétaires qui sont importants. Il y a des inquiétudes aussi, par ailleurs, des chefs d'entreprise, d'un certain nombre de secteurs économiques. Donc, il faut entendre tout ça. Mais c'est pas en ayant éjecté le pilote dans l'avion qu'on arrivera à résoudre les choses.
Le député Les Républicains Philippe Gosselin au micro de Radio Orient. La situation catastrophique dans la bande de Gaza, le pape Léon XIV appelle pour la première fois à un cessez-le-feu permanent. C'était ce mercredi à l'issue de l'audience générale hebdomadaire. Le souverain pontife a interpellé la communauté internationale. Il a demandé en particulier à ce qu'Israël respecte le droit humanitaire international. Nous y revenons avec une figure de l'Église catholique en France, le père Christian Delorme, le prêtre qui fut l'un des artisans de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Il est aussi délégué épiscopal pour le dialogue interreligieux du diocèse de Lyon, le père Christian Delorme.
On assiste à l'agonie d'un peuple, on ne sait quoi faire et comment faire. On est en face de ce régime qui est en place à Tel Aviv, de M. Netanyahou, soutenu par un régime de même nature, mais plus puissant encore aux États-Unis. On est complètement dérouté.
Quel est l'impact d'une parole papale? Quel est l'impact diplomatique d'un tel propos du souverain pontife Léon XIV?
Écoutez, aujourd'hui, je pense que ça peut encourager un certain nombre de pays à prendre la parole. Je pense que ça peut encourager des reconnaissances de cet État palestinien qui est attendu depuis si longtemps, et dont la création est prévue depuis si longtemps par les Nations Unies. Donc je pense que ça peut jouer dans ce sens-là, d'un encouragement à d'autres prises de parole. Quant à l'efficacité immédiate, je n'y crois plus. Aujourd'hui, le monde est gouverné par des autorités, des pouvoirs autoritaires plutôt brutaux, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Russie, que ce soit à Tel Aviv. Et ce sont des hommes qui ne croient qu'en la force et qui n'ont aucune empathie pour les populations civiles.
Le père Christian Delorme, délégué épiscopal pour le dialogue interreligieux du diocèse de Lyon. L'Europe met ses menaces à exécution. La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont annoncé ce jeudi avoir entamé à l'ONU la procédure de rétablissement des sanctions internationales contre Téhéran. Ils ont entamé la procédure auprès de l'ONU. Ils déclenchent ainsi le snapback, un mécanisme prévu dans le cadre de l'accord sur le nucléaire iranien conclu en 2015. Décryptage avec Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Iran, auteur notamment de « L'Iran, une puissance en mouvement ».
Ce processus snapback, en fait, les Européens envoient un courrier au Conseil de sécurité des Nations Unies, et il y a encore un mois de délai, c'est un peu la bureaucratie. Si au bout d'un mois, il n'y a pas eu de solution trouvée, ça voudrait dire que toutes les résolutions des Nations Unies et les sanctions associées qui avaient été votées, bon, je crois qu'il y en a quatre dans les années 2000-2010, contre l'Iran seraient rétablies. Et donc, notamment, il y aurait un embargo sur tout ce qui est matériel balistique et bionucléaire qui serait transporté vers l'Iran.
On s'en souvient, Donald Trump avait très rapidement rétabli les sanctions maximales dès les premières semaines de son premier mandat. Il avait aussi commencé à appliquer les lois d'extraterritorialité, incitant les alliés à adopter la même politique que les États-Unis sous peine de poursuite. Est-ce que c'est un scénario qui pourrait se reproduire?
Effectivement, donc Donald Trump est sorti de l'accord sur le nucléaire, pourtant validé par une résolution des Nations Unies en mai 2018, et il a rétabli toutes les sanctions américaines. Et en fait, on n'est pas vraiment sorti de cette situation. Ce que Donald Trump a fait depuis le début de son deuxième mandat, c'est qu'il a menacé l'Iran de nouvelles sanctions. Pour l'instant, on voit pas grand-chose. Il a commencé des négociations qui se sont interrompues, qui ont été interrompues par cette guerre lancée par Israël. Donc on en est là, les Européens ont lancé ce processus de snapback. La grande question, c'est est-ce que les États-Unis et l'Iran vont recommencer à discuter parce qu'il n'y a pas trop d'autres solutions. Et donc ça, c'est sur la question du nucléaire iranien. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on voit pas trop d'empressement, même du côté américain, pour commencer ces négociations pourtant bien nécessaires avec l'Iran.
Thierry Coville, chercheur à l'IRIS, auteur notamment de l'Iran, une puissance en mouvement, c'est aux éditions Erol. La rentrée scolaire ce lundi, et la vive inquiétude de l'UNAPI. L'UNAPI, c'est un réseau d'associations qui représente les personnes avec des handicaps intellectuels et cognitifs. Des milliers d'enfants handicapés n'ont pas de solution de scolarisation adaptée pour cette rentrée. La vice-présidente de l'UNAPI, Sonia Aeinu.
Si nous sommes dans une démarche d'école inclusive et de société inclusive, il faudrait arrêter de traiter les élèves en situation de handicap comme un problème. Un élève est un élève, sans distinction, et c'est un projet de société, un projet de vie et un projet qui doit concerner tout le monde. Cette problématique, elle est liée aussi parce qu'aujourd'hui, l'école n'est pas en mesure de réunir tous les moyens nécessaires, structurels, matériels, financiers, organisationnels, pour que chaque élève, quel qu'il soit, puisse rentrer dans les apprentissages, développer son autonomie et être scolarisé comme tous ses autres camarades.
Vous aviez lancé un tel cri d'alarme l'année dernière. Des améliorations ont-elles vu le jour ?
Alors oui, effectivement, on a des améliorations qui ont vu le jour, mais encore faut-il aller encore beaucoup plus loin. Alors j'aime bien donner cet exemple de la personne qui a besoin d'une paire de lunettes pour voir. Si on ne lui fournit uniquement la monture des lunettes, ça sera quand même problématique pour qu'elle puisse résoudre son problème. Aujourd'hui, l'école inclusive, on en est là. On fournit beaucoup d'outils, on fournit beaucoup d'annonces, mais le système tel qu'il est aujourd'hui n'est pas suffisamment dynamique et agile pour travailler autour de la scolarisation de tous les élèves, quels qu'ils soient.
Et il y a des parents désemparés qui vous écoutent en ce moment, oui, qui ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ?
Moi, déjà, je leur souhaite une très bonne rentrée. Je leur souhaite de ne pas lâcher, de ne rien lâcher et de bien s'appuyer sur les associations. Quelle que soit leur situation, la situation doit être entendue et nous sommes porte-parole justement pour remonter leur situation à travers la plateforme marentrée.org. Mais également, je leur conseille aussi de ne pas hésiter vraiment à contacter tous les interlocuteurs au niveau de l'éducation nationale, au niveau des numéros qui ont été mis en place pour les parents, justement, dès la rentrée, quand ils rencontrent leurs difficultés. Et nous sommes toujours là pour eux.
Sonia Aeinu, vice-présidente de l'UNAPI. Fin de ce grand angle hebdo. Un grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Grand Angle sur Radio Orient.